On se retrouve sur le plateau de la JDL TV pour échanger sur un sujet d'actualité, le transport exceptionnel. Pour en parler, nous avons reçu 5 invités, Damien Uconi, CEO, couturier. Valentin Loiseau, chargé d'affaires, Scales, Jérémy Bonneau, chargé d'affaires, Istrans, Julie Billig, chargé de projet, Renew Partnership France et Olivier Arrigot, secrétaire général, FNTR Nord et Commission Masse Indivisible.
Nous allons commencer une nouvelle thématique pour les JDL TV pendant ce salon, cette première journée, et nous allons parler avec nos 5 invités du transport exceptionnel. Alors autour de la table, nous avons Olivier Arrigot de la FNTR. Bonjour Olivier. Julie Billing de la société Renus. Bonjour Julie.
Enchantée, bonjour.
Jérémy Bonneau de la société Istrans.
Bonjour.
Damien Uconi de la société Couturier. Et Valentin Loiseau de la société Scales.
Bonjour Marie.
Alors, on va commencer avec vous, Olivier. Déjà, vous pouvez nous rappeler rapidement, très rapidement, ce qu'est le convoi exceptionnel. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le détail sur votre rôle et les enjeux de la fédération.
Très bien.
Alors, le convoi exceptionnel, c'est tout ce qui va sortir du standard du code de la route. Donc, tout ce qui va être un peu plus grand, un peu plus large, un petit peu plus lourd, va rentrer dans cette grande famille du convoi exceptionnel. C'est une grande famille qui réunit quand même un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'entreprises qui sont spécialisées. Et aussi, c'est une activité qui est ponctuellement réalisée par un bon nombre d'entreprises disposant d'un plateau et qui va répondre à une demande client un peu plus ponctuelle. Donc voilà, tout ce qui ne rentre pas dans ce canal-là, donc c'est 16,50 m, schématiquement 16,50 m.
En termes de tonnage, c'est jusqu'à
16,50 m de long, 2,55 m de large et 44 tonnes. Ça devient du transport exceptionnel. Et puis, on va aller vers plus en plus de spécialités au fur et à mesure que le gabarit va augmenter et que le poids, effectivement, va augmenter.
C'est lié à ces trois critères-là, la longueur, la largeur et
c'est effectivement les trois critères. La hauteur n'est pas un critère dans la réglementation française. Donc, on ne tient pas compte de la hauteur. Il faut en tenir compte après en circulation pour évidemment que ça passe au bon endroit, au bon moment.
Et si on a un des critères?
Si on a un des critères, on devient effectivement un transporteur exceptionnel et on rentre dans un niveau de réglementation supérieur à celui du transporteur conventionnel.
Est-ce qu'on a déjà des éléments de marché sur ce transport exceptionnel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des données qui existent?
Alors, on a un régime qui veut qu'on passe par une autorisation. Donc, normalement, sur un plan administratif, on devrait pouvoir effectivement recenser qui fait quoi et dans quelle mesure et pour quel nombre de véhicules. Ces données sont gérées par notre administration centrale, en l'occurrence, au niveau des services de l'État, et elles sont très, très perfectibles, très clairement. Donc, on a un volume qui est à peu près approximatif. En nombre d'entreprises, on peut estimer qu'on a une centaine d'entreprises, une centaine d'acteurs sur le marché français, donc d'entreprises françaises, on s'entend, qui sont effectivement spécialisées, qui ont fait du transport exceptionnel leur spécialité. Mais il y a ensuite toute cette frange de transporteurs conventionnels qui, de temps en temps, débordent sur le transport exceptionnel. Donc, c'est beaucoup plus diffus pour le poser de manière plus précise. Et ensuite, on a ce fameux nombre d'autorisations qui sont délivrées. On a à peu près sur 30 000 autorisations délivrées à l'année par les services de l'État, mais ça n'est pas le reflet de l'activité, puisque une autorisation peut générer plusieurs convois, plusieurs circulations, plusieurs transports. Donc c'est une donnée relative qu'on essaie d'exploiter, mais qui n'est pas satisfaisante pour aller vraiment à un niveau de détail très, très précis.
Et dans ces 30 000 à l'année, c'est assez régulier d'une année à l'autre ou vous ne voyez pas des grosses fluctuations?
Ça dépend évidemment de l'activité économique, ça dépend du nombre d'entreprises qui vont se positionner sur ce type de marché. Et puis ça dépend aussi du respect de la réglementation de manière générale, puisqu'il y a aussi certains acteurs qui vont se dispenser du respect de cette réglementation parce qu'elle est contraignante et que ça pourrait être un avantage économique. Donc là, il y a tout un enjeu aussi de contrôle qui fait partie de nos missions et de nos actions.
On va parler des contraintes après, mais vous, dans votre fédération, quel est le rôle exact de la fédération?
Alors, il est multiple, il est divers. On a un premier rôle d'accompagner nos entreprises. Ce sont des entreprises à part entière qui ont en plus une spécialité de faire du transport qui est réglementé et qui font du transport exceptionnel pour ce qui nous concerne ici, qui est encore plus réglementé. Donc, c'est les accompagner sur ces enjeux de réglementation, en particulier sur les relations qu'ils vont avoir avec tous les gestionnaires d'infrastructures et toutes les difficultés que ça va générer. Donc ça, c'est la relation avec nos adhérents, avec nos entreprises. Puis quand on a identifié des enjeux, des problématiques qui sont transverses, on va les porter vis-à-vis des pouvoirs publics. Et là, ils sont nombreux sur le transport exceptionnel, puisque c'est à la fois les services de l'État, ce sont les gestionnaires d'infrastructures, ce sont SNCF, les concessionnaires autoroutiers. Et aujourd'hui, on descend même jusqu'au niveau des mairies avec lesquelles on a un certain nombre de difficultés pour faire circuler les convois.
À peu près combien d'adhérents ?
Sur la fédération dans son ensemble, on les compte en milliers. Sur l'activité transport exceptionnel, nous avons une commission qui réunit les professionnels en question. On a un panel d'une vingtaine d'entreprises qui sont actives, effectivement. Et pour les autres, elles sont plus en recherche d'informations, venir chercher de l'information. Mais en termes de participation, on a un petit groupe bien constitué qui nous permet d'avancer sur nos sujets.
Alors, leurs grands enjeux, quels sont-ils ?
Alors, ce sont les enjeux d'un transporteur, donc ce sont des enjeux de formation, d'emploi, de transition énergétique, voilà tout ce qui va animer le monde du transport de manière générale. Et puis, par rapport à cette spécialité, c'est une spécialité qui répond à une réglementation. Alors, c'est une volonté de la profession de rester sur une activité qui soit réglementée, qui ne soit pas ouverte à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. C'est un convoi, ce n'est pas un transport lambda. Il est impactant sur la circulation, il est impactant sur les ouvrages, donc il faut qu'il soit encadré. Donc ça, c'est un rôle de régulation de la réglementation. Et cette réglementation, aujourd'hui, c'est un constat que malheureusement nous faisons depuis plusieurs années, elle est complexe, c'est volontaire, mais on est arrivé à un niveau de complexité qui est kafkaïen, à un niveau de le millefeuille administratif français qui joue à plein et qui vient perturber l'activité de l'entreprise parce qu'on a tout cet empilement d'autorisation à obtenir, d'avis à obtenir, de passage à tel endroit à un autre, qui va nécessiter de reconstruire des itinéraires parfois parce qu'un seul gestionnaire va refuser le convoi sur son périmètre de compétences. Et c'est un temps administratif qui est devenu extrêmement lourd, qu'on espérait simplifier à travers diverses réformes, la dernière date de 2017, qu'on espérait simplifier aussi avec des outils. La nouvelle plateforme qui permet la déclaration et le suivi des autorisations s'est mise en place l'année dernière. Et malheureusement, à chaque fois, on fait le constat que ça ne va pas dans le sens de la simplification, mais qu'on rajoute au contraire une petite couche supplémentaire de complexité qui vient pourrir, on va dire, le quotidien des entreprises, de l'exploitation et des services d'autorisation.
Alors là, on a trois entreprises qui font du transport exceptionnel plutôt routier. Je me tourne vers vous, Damien Zucconi, entreprise couturier. Vous rejoignez les propos d'Olivier par rapport à ces procédures qui sont très lourdes et puis finalement, il n'y a pas forcément de flexibilité ou d'accompagnement.
Oui, complètement. Alors, on est évidemment concerné par toutes les problématiques qu'Olivier vient de soulever. Chaque transport exceptionnel, par définition, doit faire l'objet d'une autorisation. Donc nous sommes amenés très régulièrement chaque semaine à lancer des demandes d'autorisation et l'expérience prouve qu'avec le temps, les exigences et les contraintes deviennent de plus en plus importantes. Alors bien entendu, les exigences, les contraintes sont plus élevées en fonction selon les caractéristiques du convoi. Plus c'est large, plus c'est long, plus c'est lourd, plus c'est difficile d'obtenir les autorisations de transport. Dans certains dossiers, les problématiques peuvent être vraiment importantes. On peut aller quelquefois jusqu'à pas loin d'un an de délai d'instruction avant d'obtenir des autorisations sur les plus extrêmes. Et quand tout va bien, on peut avoir une autorisation en 6 semaines dans les cas les plus optimistes. Chaque jour, c'est un challenge. Et dans les entreprises de transport, nous avons tous des spécialistes pour traiter ces démarches.
Ouais,
des collaborateurs dédiés à la dépose et au traitement de ces demandes d'autorisation de transport.
Chez Istrans, vous avez les mêmes difficultés ?
Oui, voilà, je rejoins mon homologue Damien sur ce point-là. Le suivi des autorisations est vraiment un sujet très important. Il faut qu'on soit très rigoureux pour ne pas se laisser déborder et éviter d'être le plus réactif possible pour justement essayer de raccourcir ce délai d'obtention d'autorisation. C'est vrai que c'est un travail au quotidien et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On a du mal à trouver du monde qui s'intéresse vraiment là-dedans et trouver des bons interlocuteurs pour avoir des réponses rapides et constructives.
J'imagine que chez Scales, vous avez les mêmes problématiques.
Je partage totalement les propos de mes confrères, évidemment. Et puis, si je peux ajouter quelque chose, je dirais que pour les projets complexes de type catégorie 3++, quand je dis plus, ça veut dire au-delà de 120 tonnes, effectivement, on est sur des délais de traitement qui peuvent dépasser les 6 mois, voire l'année. Et nous, il n'est pas rare que pour des projets d'utilité publique ou à fort enjeu industriel, on demande dès l'enclenchement du projet le soutien de nos clients et leur appui politique, si je puis dire, pour pouvoir déclencher des réunions auprès des préfectures concernées directement avec les préfets ou sous-préfets pour que le dossier puisse être traité, je dirais, non pas en priorité, mais en tout cas traité correctement, puisqu'on sait toujours à quoi s'en tenir et le parcours qu'on va devoir accomplir pour obtenir justement cette demande.
Est-ce que les communes aujourd'hui, certaines, n'autorisent pas le passage d'un convoi ?
La plupart du temps, non. Mais on constate quelquefois que certains maires qui ont eu des expériences douloureuses avec des convois peuvent décider arbitrairement d'interdire le passage des convois dans leur commune. Et ça peut être difficile. Nous faisons partie de la FNTR Bourgogne et qui a mené une action dans une commune tout près d'ici il y a quelques jours pour essayer de convaincre un maire de changer sa position quant au passage des convois.
Tout à l'heure, vous parliez d'une plateforme pour déposer ces autorisations qui a été mise en place il y a finalement peu de temps.
Une année.
Vous avez un peu un retour d'expérience à faire sur cette plateforme. Est-ce qu'elle est peut-être perfectible? Elle a peut-être aussi des points très forts.
L'évolution qu'il y a sur cette plateforme, déjà pour nous, lorsqu'on pose les demandes, c'est qu'on a une carte maintenant où il est sélectionné les différents tronçons routiers qu'on veut emprunter. Mais après, on constate que lorsque c'est retranscrit en CERFA officiel que l'on envoie aux communes, cette carte disparaît. Donc, du coup, on se retrouve à devoir réexpliquer aux communes traversées quel itinéraire nous devons emprunter. Et donc, ça fait double emploi.
Pour compléter les propos de Jérémy, la plateforme, parce qu'on parle des effets négatifs, hein, c'est qu'elle augmente considérablement le temps de dépôt des demandes. Donc, le temps qu'on passait avant, il a largement été augmenté. Je rejoins un peu ces propos aussi sur les compétences, le temps alloué à faire cette partie du travail qui est obligatoire, hein, mais qui coûte aussi forcément de l'argent pour une entreprise. Et à cela s'ajoute, pour revenir sur les communes, le système a intégré la consultation automatique de toutes les communes que vous traversez. Auparavant, lorsque vous déposiez une demande, seulement quelques communes nécessitaient d'être consultées au préalable, que vous puissiez obtenir votre autorisation, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas rare que pour une demande, dans un département, on vous demande la consultation de 15-20 communes qui, elles-mêmes, n'ont pas forcément les compétences pour répondre, puisque vous pouvez traverser une commune de 500 000 habitants qui a toujours vu des convois exceptionnels passer chez elle, qui ne s'est jamais posé la question puisqu'on ne lui demandait pas son avis. Aujourd'hui, cette commune-là, on lui demande un avis de passage. Forcément, elle se pose des questions qu'elle ne se posait pas auparavant, à savoir est-ce que je peux autoriser le passage du convoi? Est-ce que la voirie dont je suis responsable, dont j'ai la responsabilité, elle est capable de réceptionner les charges qui sont indiquées? Et voilà, donc on assiste à des discussions qu'on n'avait pas avant et qui prennent un temps considérable et qu'on a du mal à expliquer aussi à nos clients, en tout cas à certains.
Les communes, dans leurs aménagements, est-ce qu'aujourd'hui c'est pénalisant pour vous dans vos tracés?
Selon les communes et selon les régions en France, en effet, c'est assez pénalisant. Par exemple, la Côte d'Azur est très problématique en ce moment, avec des aménagements. Bon, ça s'explique aussi parce que c'est une région très touristique. Donc, ils font des embellissements de la voirie avec des jardinières, des ronds-points aménagés. C'est très joli. Mais c'est vrai que nous, en convoi, ça nous oblige à être encore plus rigoureux sur les reconnaissances d'itinéraires et anticiper le démontage de tous ces mobiliers. Et je rejoins Valentin en disant que c'est des coûts supplémentaires pour les sociétés et en finalité pour les clients, puisqu'il faut anticiper et prévoir les aménagements nécessaires pour le passage de nos convois.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour faciliter ces autorisations qui sont difficiles aujourd'hui, enfin en tout cas très longues à obtenir?
Il y a un vrai travail de réflexion et de refonte de la manière dont on fait circuler les convois sur le territoire. On a une réglementation qui est ancienne, elle repose sur un texte de 2006. On était à l'époque encore avec une gestion du patrimoine routier qui était centralisée au niveau de l'État, qui a été décentralisée auprès des départements. Les communes, effectivement, qui ne posaient pas problème il y a quelques années, même quelques mois, commencent à rentrer dans le jeu et deviennent un interlocuteur problématique, mais qui s'ajoute aux départements, qui s'ajoute à la SNCF, qui s'ajoute aux concessionnaires autoroutiers, qui s'ajoute aux directions interrégionales des routes. Et aujourd'hui, on voit bien que le système, il est satisfaisant pour personne. Il n'est pas satisfaisant pour les transporteurs qui perdent du temps, qui perdent de moyens, de l'efficacité. Il n'est pas satisfaisant pour les clients de nos transporteurs qui sont effectivement très diverses. C'est de l'énergie, c'est de l'industrie, c'est du travaux public, c'est parfois même du festif. Souvent l'exemple du grand sapin de Noël de la place Kléber à Strasbourg. C'est un convoi exceptionnel qui l'amène et c'est une grue qui va permettre de le monter. Donc même pour des choses comme ça qui paraissent très banales, le convoi a son importance. Et aujourd'hui, on voit bien que l'approche de Strasbourg pour ce fameux sapin pourrait être complètement arrêté parce qu'un maire à 30 km de là pourrait décider que ça ne passe plus chez lui pour une raison X ou Y. Et puis on a aussi un phénomène de restriction des itinéraires parce que tel département, pour des raisons de maintenance de ses ouvrages, va déclasser un pont ou un viaduc ou quelque chose. Donc les convois ne passent plus à cet endroit-là, ils vont se reporter ailleurs et on voit par endroit comme ça une concentration. Évidemment, ça crée du ras-le-bol auprès des riverains, donc auprès de la commune, et on a remis encore un niveau d'insatisfaction. Donc les gestionnaires ne s'y retrouvent pas, les transporteurs ne s'y retrouvent pas, les services de l'État quelque part non plus, donc il faut vraiment repenser politiquement cette manière de concevoir la circulation des convois. Les choses se font pour garder à l'étranger, en Belgique, en Allemagne. Comment ça se passe? Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses aussi. Il faut le prendre avec précaution. Mais voilà, c'est vraiment une réflexion de force. C'est ce que l'on porte depuis plusieurs années auprès de chaque gouvernement, auprès de chaque ministère de l'Intérieur. Ils ont des durées de vie qui sont de plus en plus courtes, donc on recommence.
Il va falloir recommencer là.
Et là, on va recommencer compte tenu du contexte politique qu'on connaît.
La transition énergétique, c'est, j'imagine, vous êtes aussi concerné. Est-ce que c'est un impact fort? Alors peut-être déjà sur la profession au niveau global, puis vous, on verra dans vos entreprises ce que ça engendre.
Oui, c'est un enjeu effectivement depuis de nombreuses années maintenant pour la profession qui a déjà beaucoup fait dans le sens de la transition énergétique. Donc c'est l'intégration des nouvelles motorisations, des nouveaux carburants qui permettent de faire mieux en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors on a la perspective du tout électrique à un horizon qui reste un peu mal défini. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas la solution pour le transport de manière générale. Alors pour vous situer à peu près, un peu chiffrer les choses, on a 0, quelque chose d'électrique dans la profession. On est plutôt sur le bas du spectre transport, véhicules légers, utilitaires légers. Et plus on va se rapprocher du transport exceptionnel, moins cette solution ne répond aux besoins des entreprises. Le gaz a connu un petit mouvement à une certaine époque et puis il est largement retombé. Il représente à peu près 3% du parc total des immatriculations. Et on a les carburants alternatifs qui, eux, répondent beaucoup mieux aux attentes des entreprises, mais avec des surcoûts par rapport à son équivalent gasoil. Donc ça dépend aussi de la capacité à faire passer cette transition énergétique à un prix vis-à-vis des clients aussi.
Donc une nouvelle contrainte quand même à gérer auprès de votre client.
Si je peux me permettre de compléter ce que disait Olivier à propos des biocarburants. Aujourd'hui, on se heurte aussi à un obstacle. On n'a pas encore les critères qui ont été attribués. Vous savez, les fameux critères qui permettent de circuler en agglomération. Sur le Bessan, je crois que le critère vient d'être attribué. Sur le XTL, il ne l'est pas encore. Oui. Donc, pour l'instant, on n'est pas prêt à passer au biocarburant non plus. Effectivement, l'électricité, c'est très limité, circonscrit aux entreprises qui travaillent en régional avec un circuit régulier qui savent à quel endroit, à quelle heure elles vont recharger. Mais nous, transporteurs exceptionnels dans notre profession, ce n'est pas possible. Puis après, on pourrait penser à l'hydrogène, mais l'hydrogène, on n'est pas prêt. Et ce qu'on constate aussi, c'est que l'hydrogène risque d'amener du poids mort, donc à des matériels plus lourds. Et donc, si notre matériel devient plus lourd, la charge transportable devient moins importante.
Chez Scales, la transition énergétique, elle est appréhendée de quelle manière?
Je dirais qu'au sens macro, nous, la solution alternative qu'on a trouvée tout de suite, c'était le report au multimodal, donc d'une certaine façon permet de diminuer notre empreinte carbone et puis aussi de pallier justement à ces contraintes administratives qu'on peut retrouver sur la route. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on transporte quelque chose, nous, en fait, on est toujours à la recherche de la plus faible distance kilométrique sur la route, puisque longue distance égale beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est un peu la solution numéro une, je dirais. Après, au sens micro, on n'a pas noté non plus d'avancée notable en matière de biocarburant. Je dirais que ce n'est pas encore totalement compatible avec notre métier. C'est économiquement pas viable encore. Par contre, bon, ici, du coup, on est tous au JDL. La capacité de l'entreprise, je dirais, à investir dans du nouveau matériel qui justement répond à ces nouvelles normes et qui nous permettent de gagner en efficacité sur la route en termes de charge ou autre, quelque part, c'est un pas vers la transition énergétique. Tout repose aussi beaucoup sur le matériel qu'on utilise et dans lequel on investit.
On est dans un contexte de réindustrialisation. Il y a quand même des grands projets, notamment liés à la transition énergétique. Est-ce que vous en bénéficiez?
Sur la partie énergie, oui, le convoi exceptionnel, c'est un acteur de la production d'énergie de manière générale. Donc ça n'est pas nouveau. Tout ce qui tourne autour de l'énergie, le nucléaire, que ce soit électrique, que ce soit éolien, que ce soit, fait pas fait appel à du convoi exceptionnel, par principe, par nature. Après, la réindustrialisation, c'est à mesurer, parce que réintroduire une usine pharmaceutique pour produire du paracétamol en France, il y aura du convoi exceptionnel, mais à une phase d'installation de l'outil industriel. Après. En fonctionnement, le convoi exceptionnel va disparaître. Donc oui, la réindustrialisation, elle est nécessaire à une échelle bien plus large que nos activités.
Damien, un grand chantier sur les derniers mois qui fait appel à de la réindustrialisation ou alors transition énergétique et qui vous impacte en termes d'activité?
Alors plus que sur la réindustrialisation, nous sommes assez bien portés par les activités de génie civil en ce moment. Et dans les belles opérations que nous avons faites cette année, il y a eu des transports de tunneliers qui nécessitaient à chaque fois plusieurs centaines de camions. Un tunnelier, c'est jusqu'à 150 camions à peu près.
Voilà, donc on a fait plusieurs tunneliers pour des métros.
Dans quelle zone géographique ?
Sud-ouest de la France et en ce moment sud-est.
Chez vous, Jérémy ?
Chez moi, c'est l'industrie, l'énergie pardon, qui nous tire quand même, c'est énormément, et des transports de transformateurs électriques qui sont en lien avec des parcs photovoltaïques installés dans les différents endroits en France. L'industrie nucléaire nous porte aussi avec des clients en chaudronnerie qui ont besoin d'acheminer des cuves ou des réacteurs ou d'autres composants de ce style. Là, cette année, on a fait différents transformateurs dans différentes usines. D'ici la fin de l'année aussi, on a beaucoup d'activités parce qu'il y a eu différents reports par rapport à des météos ou des contraintes de navires. Et du coup, la fin d'année s'annonce quand même assez intense.
L'éolien, tu ne l'avais pas évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est un peu tassé ?
Pour parler d'Istrans, l'éolien terrestre n'est pas positionné sur ce marché. C'est un choix de la société. Ensuite, avec les éoliennes offshore, de temps en temps, près des zones portuaires, il nous arrive de faire un peu de bruitage ou un peu de transport intersite. Mais voilà, ce n'est pas notre cœur de métier à proprement parler.
Et chez Scalès, Valentin, vous avez des exemples, alors en lien avec la transition énergétique ou avec l'industrie, avec des schémas logistiques assez complexes.
L'exemple d'un projet qu'on a achevé il y a quelques mois maintenant, c'est un projet qui a lieu pour quelques années encore sur le site de Grandpuy en Seine-et-Marne, une raffinerie totale qui, justement, dans le cadre de la transition énergétique, a fermé sa production de pétrole, le raffinement de pétrole, pour convertir et développer une unité de production d'hydrogène. Et dans ce cadre-là, nous, on est intervenu pour un client, Air Liquide, pour acheminer tous les composants, les gros composants de cette nouvelle unité de production depuis un port français. Et le projet était intéressant puisqu'on parle en tout d'une petite centaine de colis, pour donner un chiffre, avec 16 colis avec des dimensions vraiment plutôt hors normes, puisqu'on avait des colis qui faisaient jusqu'à 30 mètres de long, 7,50 mètres de large par 7,50 mètres de haut, avec un poids de 160 tonnes. Et là, on a dû donc combiner plusieurs types de transports, à savoir gérer dans un premier temps les manutentions portuaires au port de Rouen, les mouvements intersites sur le port à l'aide de nos remorques automotrices, l'affrètement de barges, puisqu'on a acheminé donc ces 16 colis via 8 barges qu'on remontait la Seine pour arriver dans 3 quais différents, acheminer ensuite ces 16 colis par la route, et puis dans cette centaine de colis, on avait une soixantaine de colis qui étaient aussi de la première, deuxième, troisième cape qu'on a acheminé en direct par la route depuis Rouen jusqu'au site de Grandpuy.
Ouais, donc là, vraiment, on arrive même dans du multimodal, finalement. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure aussi, que c'était un élément, ce report multimodal, pour participer à cette transition et en tout cas avoir des convois moins émetteurs.
Nous, notre positionnement, il est clairement axé sur le multimodal pour plusieurs raisons. La transition énergétique, le désir aussi du client de pouvoir lui livrer un projet clé en main, et nous, de pouvoir maîtriser tous les acteurs de la chaîne logistique. L'usine de départ jusqu'au site de livraison, et puis on va souvent aussi parfois jusqu'au montage puisque nous sommes également manutentionnaires.
C'est aussi un moyen finalement, ce report, de contourner un petit peu les autorisations.
C'est toujours plus simple quand vous maîtrisez tout de bout en bout, que vous avez les compétences pour le faire. Et effectivement, notre expertise permet quelque part aussi de réduire justement ces trajets et donc de minimiser les risques sur la route.
Donc le report multimodal, ça nous fait une bonne transition avec vous, Julie. Vous êtes de la société Rhenus chargée de projet.
Notre cœur de métier, c'est vraiment le transport de produits et de colis lourds, exactement, sur les voies d'eau.
Sur la France et vous allez...
Sur la France et l'Europe.
Et l'Europe.
Il y a à peu près 40 000 km de voies navigables en Europe. On peut adapter à différents types de gabarits de bateaux. Et donc nous affrétons sur l'ensemble du réseau fluvial.
Le transport fluvial a vraiment sa carte à jouer dans le convoi exceptionnel.
Tout à fait.
Vous n'êtes pas soumis aux autorisations comme vous pouvez l'être en transport terrestre ?
C'est ça. Il faut voir le transport fluvial comme un complément dans la chaîne logistique de transport exceptionnel. On ne pourra jamais ramener une pièce du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée par bateau. Il y aura toujours une partie de transport exceptionnel par route qui sera à prévoir. On est vraiment là en complément intéressant sur la longue distance, notamment quand vous avez plusieurs pays à traverser, parce qu'en tant que transporteur fluvial, les bateaux n'ont pas besoin d'autorisation de transport dans les pays qu'ils traversent. On va avoir bien sûr des contraintes, ce sera plus en termes de gabarit de bateaux. Vous avez des axes principaux comme le Rhin, l'axe Saône-Rhône ou la Seine, où là on est sur du grand gabarit, donc vous avez des bateaux qui ont des ouvertures de cale jusqu'à 10 mètres de large, donc ça permet quand même de charger des pièces conséquentes, ou alors vous avez la possibilité de passer par des pontons, donc on va pouvoir transporter des pièces quand même
de
grande dimension sur la voie d'eau. Après, entre ces réseaux, malheureusement en France, on est connecté par un réseau petit gabarit, où là par contre on est beaucoup plus contraint en termes de dimension.
Quelles sont les contraintes quand même du transport fluvial? Alors, le poids, est-ce que c'est une contrainte?
Le poids peut jouer. À l'inverse, on va avoir un souci, c'est si la pièce est volumineuse et n'a pas beaucoup de poids. Quand on est sur du transport fluvial, vous allez avoir le tirant d'eau, qui est important, donc c'est l'enfoncement du bateau dans l'eau, et le tirant d'air, donc c'est la partie qui dépasse. Donc les pièces qui n'ont pas suffisamment de poids, on va rester sur des hauteurs assez importantes. Et donc pour pallier ça, on va utiliser du ballast, où il y a des bateaux qui sont adaptés justement pour pouvoir ballaster et s'enfoncer suffisamment et pouvoir passer sous les ponts les pièces les plus hautes.
Vous pouvez nous donner un exemple d'un grand transport et sur quel bassin c'est le plus favorable finalement de naviguer en convoi exceptionnel fluvial?
Sur le Rhin notamment, puisque c'est là où on a le plus gros cœur d'activité, on va avoir beaucoup d'éléments d'éoliennes hein, justement qui viennent des ports de mer et qui vont être amenés vers la France dans le Grand Est. Par la voie d'eau, que ce soit des pales ou des éléments, des fûts d'éoliennes. On fait également tout ce qui est des turbines pour l'énergie. Il y a pas mal de choses de ces produits-là qui passent par la voie d'eau. Je peux vous donner un exemple, oui. Par exemple, sur les pièces de Gillet qui sortent de Belfort, qui sont chargées sur la plateforme de Neuf-Brisach. Vous avez, on va dire, la partie route entre Belfort et Neuf-Brisach, je crois que c'est à peu près dans les 4-5 jours de trajet route, parce qu'il y a toutes les contraintes liées au transport routier. Et ensuite, vous allez charger à Neuf-Brisach pour aller jusqu'à Anvers, où vous allez avoir 4-5 jours de navigation. Là, on est quand même sur 800 km de navigation, sans contrainte, justement, sans besoin de démontage d'obstacles. Et voilà. Et vous allez traverser plusieurs pays sans avoir de contrôle aux frontières.
D'autorisation, comme on peut l'avoir sur le terrestre. Voilà. Et en termes de coût, est-ce que ça a un impact, fluvial?
Passer par du report modal peut avoir un coût. Vous allez avoir des ruptures de charge. Donc c'est vrai que si vous avez un camion qui va de A à B, c'est beaucoup plus direct et il y aura moins de surcoût sur la partie. Alors que quand vous passez par du report modal, vous allez avoir le prix de la manutention au chargement, au déchargement, le prix de la barge. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment le dossier logistique dans son ensemble. Donc pour le transport exceptionnel, c'est tous les surcoûts que vous allez avoir liés aux autorisations de transport et que vous comparez avec une solution de report modal. Donc selon les types de pièces, ça peut tout à fait valoir le coup de passer par une solution fluviale.
Vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Oui, alors je dirais quand même que quelquefois, les deux solutions ne sont pas vraiment en concurrence parce qu'on n'a quelquefois tout simplement pas le choix. Quand ça ne passe pas par la route, ouais, vous êtes obligé de passer par le fluvial. Quand on transporte des colis de plusieurs centaines de tonnes, il faut minimiser absolument la distance par la route et chercher le port le plus proche pour utiliser la voie fluviale. Après, une des limites, donc le transport fluvial est un moyen très performant partout où il y a un réseau d'eau. Par contre, la moitié ouest de la France est assez peu équipée, c'est oui. Pas le bon terme, mais
il n'y a pas
de réseau fluvial dans la moitié ouest de la France. Donc là, on arrive plutôt par les façades maritimes quand on veut aller livrer dans l'ouest de la France. Voilà. Mais pour toute la moitié est, comme le disait Julie, effectivement, le réseau fluvial est très, très développé et offre beaucoup de solutions pour des colis très encombrants.
C'est complémentaire, comme on l'a vu sur le projet dont vous avez parlé avec Air Liquide. C'est vraiment un complément et finalement, vous n'avez pas vraiment le choix. Il faut faire du report modal parce que techniquement, ça ne passe pas.
Et on travaille d'ailleurs beaucoup ensemble.
On a abordé la transition énergétique et ses nouveaux carburants. Et vous, en termes de transport fluvial, est-ce qu'il y a des expérimentations, des progrès qui ont été faits ou qui sont en train d'être développés?
Effectivement, le groupe Rhenus est aussi acteur dans cette logistique de décarbonation sur les différents métiers dans lesquels il travaille, et notamment sur la partie fluviale. On a notamment un grand projet structurant pour la partie fluviale, la construction de nouveaux convois poussés. Qui fonctionne avec des énergies hybrides, hydrogène et pile lithium. C'est des bateaux qui sont en construction, qui sont en train de passer les phases de test et qui pourront bientôt être utilisés sur le Rhin principalement.
Vous travaillez avec les voies, avec la VNF?
C'est l'organisme qui s'occupe de l'entretien et de la gestion de l'ensemble du réseau fluvial en France. Donc on est effectivement en contact avec eux.
Ils sont peut-être aussi moteurs sur, entre guillemets, sur ces nouvelles énergies?
Oui, tout à fait. Ils sont moteurs et ils sont aussi partie prenante parce qu'ils ont mis en place des plans d'aide de report modal. D'une part pour les logisticiens ou les chargeurs qui aimeraient tester la voie d'eau avec des subventions pour leur permettre de faire ces phases de test. Et dans la construction, avec un programme qui aide à la modernisation de la flotte, où justement les grands projets on appelle ça de rétrofit, donc oui, les modifications des motorisations, par exemple, peuvent être subventionnées en partie par les aides de VNF.
De votre côté, il n'y a pas de subvention sur le transport routier?
Stop. C'est...
Très peu.
C'est insignifiant.
Non, il n'y en a pas.
C'est pas ça qui fait la décision.
Oui.
Ouais, d'investir ou pas.
Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport au transport, au report multimodal?
On est routier, hein, oui. La Fédération nationale des transports routiers, donc effectivement, on est sur la route. C'est pas pour autant qu'on a les deux pieds dans le même sabot, et les professionnels cherchent de toute façon la solution la plus efficiente, la plus efficace pour répondre à la demande de leurs clients. Donc si le fluvial ou le ferroviaire, qui a d'autres limites et qui est peut-être un peu moins performant, mais le ferroviaire peut répondre à ce besoin, il sera utilisé. Donc il n'y a pas de concurrence modale comme ça est souvent présenté. Ce n'est même pas un report modal, c'est véritablement la construction en multimodalité en utilisant les moyens qui sont les plus efficaces et les plus efficients au bon moment. C'est vrai sur les carburants, sur les motorisations pour la partie routière, et c'est vrai sur l'utilisation de cette multimodalité.
Un petit mot de la fin, chacun, sur les besoins de votre métier. En synthétisant, tout à l'heure, on a parlé effectivement des autorisations.
C'est national, hein, ça c'est même pas forcément propre au transport, mais aujourd'hui, on est à la recherche de simplification, je dirais administrative. On est dans un système, comme Olivier l'a bien expliqué, qui est en cascade et qui est indigeste pour tout le monde, pour les gestionnaires y compris, hein, et les représentants de l'État. Après, je dirais ce qui est un peu difficile aussi dans notre métier, c'est la perte de compétences. On est quand même un secteur de niche. Le transport exceptionnel, ça ne pèse pas non plus par rapport au transport conventionnel grand-chose. Donc c'est un métier de spécialiste, de passionné, qui est difficile parce qu'il est très contraignant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tous mes confrères seront d'accord autour de la table pour dire que le recrutement est un enjeu majeur, je pense, pour les années à venir. Et puis le multimodal, dont on a bien parlé ensemble.
Damien, un mot de la fin.
On a un métier qui est très consommateur de matériel, et avec la crise en Ukraine en 2022, les matériels ont flambé, les prix ont flambé. On a eu plus 30 à 40% sur les prix de tous nos matériels. On essaie de les répercuter à nos clients, mais on est aussi dans un contexte concurrentiel qui font qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec nos niveaux de prix. Voilà, donc ça aujourd'hui c'est un vrai enjeu pour nous de pouvoir continuer à s'équiper, parce que c'est indispensable de rester à la pointe de la technologie et en même temps de rester sur des dépenses qui sont raisonnables par rapport à ce que l'entreprise peut se permettre de supporter et ce que nos clients sont prêts à payer aussi. Voilà, donc il y a un vrai enjeu aussi sur les matériels dans un métier comme le nôtre, aussi exigeant à ce niveau.
Jérémy, un enjeu pour vous.
Pour passer un dernier, c'est vrai que je vais dans le même sens de mes confrères, les autorisations et autres, mais ce qui est important aussi, c'est une montée en compétence de nos interlocuteurs sur le métier du convoi exceptionnel. Je parlais vraiment aussi par rapport aux services d'État, les DDT, les CD, qu'on ait des interlocuteurs qui comprennent notre métier, où on puisse parler d'égal avec eux pour faciliter les échanges et faciliter l'avancée des dossiers. Pour tous avancer dans le même sens et qu'il n'y ait pas de raté, parce que des fois on a des autorisations et on a aussi quelquefois des petits problèmes sur la route imprévus, inopinés. Donc voilà, on y arrive, on trouve toujours des solutions, mais ça rajoute du stress en plus et pour les équipes, c'est un peu compliqué. Même si c'est des passionnés, même si c'est des équipes qui sont au top, on essaie quand même de faciliter,
oui, de faciliter le travail, voilà, pour que ce soit efficace et satisfaisant pour le client. Voilà. Pour la FNTR.
Pour parler de l'avenir, je vais revenir un tout petit peu dans le passé. On a clôturé des Jeux Olympiques en France avec brio et avec succès. Ce moment exceptionnel, c'était aussi grâce au monde du transport exceptionnel, parce que toutes ces infrastructures, elles ont fait appel à nos entreprises et à nos métiers. Bah, c'est de transformer ce moment particulier pour que ça devienne effectivement du quotidien et qu'on se donne tous collectivement les moyens, intelligemment, d'arrêter ce travail en silo et qu'on aille vers cet objectif et qui est un objectif de servir une industrie, servir une économie. Puis derrière, ça devrait se décliner avec bonne volonté pour trouver les bonnes solutions. Mais aujourd'hui, on l'aborde uniquement par la contrainte, ce qu'il génère de négatif. Évidemment, on va lui rajouter des bâtons dans les roues, mais on perd cet objectif général qui est quand même l'essentiel et qui dépasse aussi nos petites missions, les uns et les autres, de transporteurs, de fédérations et autres.
Ce grand chantier des JO, ça s'est passé facilement pour tous les acteurs qui ont contribué dans le transport exceptionnel ?
Alors, des retours que j'ai pu avoir, pas forcément si facilement. C'est-à-dire que Valentin l'évoquait, parfois on est obligé de passer le coup de fil qui va bien pour débloquer tel ou tel matériel, telle ou telle grue. Parce que quelqu'un, quelque part, a décidé que ça ne passait pas, alors que ça participe d'un enjeu qu'on pouvait penser supérieur et totalement incontournable. Donc oui, on peut se retrouver, le grain de sable peut vraiment gripper la machine et déployer, la nécessité de déployer des moyens aussi énormes, c'est juste rageant par rapport à cet objectif.
Julie, pour vous, l'enjeu principal là maintenant ?
L'enjeu principal pour nous, c'est vraiment de faire connaître la multimodalité. Comme je le disais au début de mon intervention, on n'est pas là pour remplacer un mode de transport par l'autre, on est vraiment, que ce soit le ferroviaire, le fluvial ou le routier, on est complémentaires pour essayer de créer des nouveaux schémas logistiques. Et donc j'invite vraiment les chargeurs et logisticiens à se pencher sur ce volet report modal qui représente quand même de nombreux avantages. Surtout quand on voit le réseau fluvial qu'on a en France, on a quand même la chance d'avoir un beau réseau fluvial, certes pas dans l'Ouest, mais dans le reste de la France, avec des plateformes multimodales à proximité. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour le développer.
Merci à tous les cinq.